un micro-trottoir réalisé par les élèves du lycée Baudimont dans le cadre d'un atelier radio.
Nous sommes allés prendre la température sur le marché de Noël auprès des Sarrageois lors des fêtes.
Chaque année, Arras et sa communauté urbaine organisent des manifestations pour la période de Noël.
Des décorations installées un peu partout, la descente du Beffroi par Saint-Nicolas, la braderie de Noël, la messe de minuit et bien évidemment le traditionnel marché de Noël qui dorénavant se nomme Village de Noël. Il est l'un des plus importants de la région.
Il se déroulait du 29 novembre au 29 décembre. Grande nouveauté, cette année il y avait une grande roue.
Que faites-vous généralement pour Noël ?
On fait un repas de famille. Avec les enfants, et puis comme ça les enfants ils ont plein de cadeaux et ils sont contents.
Je travaille.
Les repas de famille traditionnels. Et notamment, je fête mon anniversaire parce que je suis né le 25 décembre.
Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec Noël étant enfant ?
Quand j'ai vu le Père Noël pour la première fois.
J'ai eu mon premier appareil photo, on va dire.
L'ouverture des cadeaux.
Non, forcément le plein de cadeaux, parce que c'est, comme je vous disais, c'est mon anniversaire également, donc c'est vraiment le jour de fête pour moi, quand j'étais enfant notamment.
Que pensez-vous de la façon dont Arras fête Noël ?
Très beau, on a un très beau marché de Noël qui représente bien Noël, donc c'est magnifique.
Ça beau, ça met en valeur la ville avec le marché de Noël qui plaît comme il ne plaît pas, parce que justement il marche un peu trop, donc du coup... Moi, je suis très contente de ce qu'Arras fait pour nous.
De mieux en mieux, avec un beau marché de Noël qui est de plus en plus grand et qui a de plus en plus de succès, quoi.
Bah, je trouve ça déjà de mieux en mieux. Enfin, depuis quelques années, le marché de Noël est devenu même le village de Noël. Et je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment tout est mis en place pour avoir un beau village de Noël et que les gens soient heureux, contents de découvrir tout l'artisanat du monde qu'on expose ici.
Est-ce que votre budget cadeau a diminué avec la crise ?
Non, je pense pas, parce que les cadeaux, ouais, c'est quand même un événement qui a lieu, enfin c'est un événement à célébrer, donc non.
Non, pas particulièrement, non.
Non, il a augmenté parce que j'ai eu un boulot en décembre, donc voilà.
Avez-vous déjà participé à une manifestation pour Noël ?
Pour donner les cadeaux de la commune aux enfants, oui, j'ai participé à ça, hein, avec un Père Noël et tout, voilà.
Comme le village de Noël s'est agrandi cette année, nous sommes allés demander aux habitants et commerçants ce qu'ils en pensaient.
Que pensez-vous de l'évolution du marché de Noël depuis ces dernières années ?
Très très bien, de mieux en mieux.
Ça a bien évolué parce que quand même cette année il y a 10 chalets en plus. C'est quand même pas mal, c'est plutôt énorme. Et, il est de plus en plus beau, il y a de plus en plus de monde qui viennent vraiment de n'importe où. Et, j'ai vu des Anglais, des Alsaciens, il y a vraiment... Enfin, de plus en plus de monde, quoi. C'est clair qu'il évolue et il régresse jamais, quoi.
Être commerçant pendant les fêtes, avantage ou inconvénient ?
Avantage, inconvénient, il y a les deux. Il y a un avantage parce qu'on travaille beaucoup. Après, bon, l'inconvénient, c'est qu'on est moins avec sa famille.
Alors, avantage, parce que quand même, moi, en tant que chalet de vin chaud, j'ai quand même pas mal de clients, donc ça fait toujours plaisir. Inconvénient, parce qu'il fait super froid, quand même. On se l'écaille pas mal, quoi.
Que des avantages ? Sur le point humain, sur tous les points.
Avantage, parce que ça draine énormément de monde. Le marché de Noël sur Arras draine énormément de monde. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Bonjour chers auditeurs, nous allons vous parler des auto-écoles.
Nous sommes allés interviewer deux auto-écoles d'Arras, Pégase et Éco-Permis dans la rue Baudimont, dans le cadre d'un atelier découverte radio.
Le reportage a été réalisé par Émilie et Louise.
Nous commençons par l'interview de Pégase avec la monitrice Virginie. Comment s'inscrire à l'auto-école et à partir de quel âge ?
Pour s'inscrire dans une auto-école, le candidat doit venir chercher la liste des documents à fournir pour l'inscription et en même temps pour voir aussi les tarifs. Et à quel âge ? Alors ça dépend si la personne fait une conduite traditionnelle, la conduite permis B traditionnelle. Donc c'est à partir de 17 ans pour une conduite traditionnelle et à 16 ans pour la conduite accompagnée.
Et comment se passent les cours de conduite et le code ?
Alors les cours de code d'abord. L'élève se présente à l'agence, il répond à un QCM avec 40 questions et 40... On lui explique les 40 réponses. En fait, il y a les 40 réponses qui arrive. Ensuite, il existe aussi du code sur Internet. Moi, je ne suis pas trop pour. Je trouve qu'il y a... c'est mieux de venir en auto-école et d'avoir les explications faites par le formateur. La conduite, ça se passe. Donc, l'élève monte en voiture avec le formateur. On lui apprend à conduire, on le forme.
Et combien faut-il de temps pour la présentation au permis et pour le code ?
En fait, ça dépend. Ça dépend, en fait. Ça peut prendre 6 mois à 8 mois pour une formation entière. cher. Ça va dépendre, c'est aléatoire en fait. Ça dépend si la personne vient régulièrement au code. Le code déjà, il faut qu'elle le travaille. L'enregistrement du dossier, il est de 2 mois, donc 6 à 8 mois en général en fait.
Et quelle est la différence entre la conduite accompagnée et la conduite seule?
Alors la conduite accompagnée, donc le jeune conduit avec ses parents après avoir été formé en auto-école. Que la conduite traditionnelle, l'élève apprend à conduire avec son formateur et lorsque le formateur estime qu'il est prêt à passer le permis, il passe le permis.
Et le permis est-il le même pour ces deux apprentissages?
Oui, l'apprentissage est le même. On apprend à conduire, que ce soit de conduite traditionnelle ou accompagnée, c'est la même chose en fait. On apprend pareil.
Et quel est votre meilleur forfait niveau prix?
Alors le prix environ, chez nous ça tourne aux environs du 1000 euros en fait. Pour forfait 20 heures, sachant que je ne fais pas de forfait 25 heures ni 30 heures. Étant donné que la loi impose un minimum de 20 heures, on fait un forfait 20 heures et après l'élève paie à la leçon de conduite.
Et quel est votre taux de réussite?
Environ 75% de réussite.
Pourquoi vous seriez le meilleur auto-école?
Parce que l'auto-école est mon entreprise et nous nous investissons pour que chacun puisse réussir.
Pouvez-vous raconter une anecdote drôle durant votre enseignement?
Une fois, on a dit à une élève, contrôle l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de stop. Alors la fille, pour voir s'ils fonctionnaient bien, ces feux de stop, elle appuyait sur la pédale de frein, elle est sortie de la voiture pour voir vite fait si les feux de stop fonctionnaient.
Que pensez-vous de la nouvelle loi de la conduite accompagnée? L'accompagnateur doit faire une formation de 3 heures, 1 heure de code et 2 heures de conduite pour 200 euros en plus du prix de la conduite accompagnée.
Alors je me suis un peu renseignée, c'était pas une nouvelle loi pour la conduite accompagnée. Ça se passe tout simplement pour la conduite dite libre. C'est lorsque la personne passe le permis avec une personne, son père, sa mère, donc la personne sera obligée de faire quelques cours en fait, mais ce n'est pas du tout pour la conduite accompagnée. On n'est pas trop au courant en fait. Nous ne sommes pas trop au courant de cette loi en fait. C'est pas encore trop mis en vigueur en fait.
Et on va terminer avec la question piège. Quand et qui a créé les auto-écoles?
Je ne sais pas.
Voici la seconde partie du reportage en compagnie du moniteur Dimitri de l'auto-école Éco-permis.
Comment s'inscrire à l'auto-école et à partir de quel âge?
Si vous êtes mineur, vous venez avec vos parents. Si vous êtes majeur, vous venez seul, bien sûr. Et à partir de quel âge? Alors, il y a deux formules. Il y a la conduite accompagnée auquel on peut s'inscrire à partir de 16 ans. Et sinon, formule traditionnelle, c'est-à-dire au permis normal, vous pouvez venir à partir de 17 ans, il n'y a aucun souci.
Quand il faut s'inscrire? Qu'est-ce qu'il faut?
Alors, pour venir s'inscrire chez nous, il y a une liste de papiers à fournir, donc qui est un petit peu longue, donc je ne vais pas vous l'énoncer directement. Le mieux tout, c'est venir au bureau se renseigner. Ce sont des papiers forcément pour la préfecture, pour monter le dossier préfectoral et votre dossier d'examen, en fait. Ensuite, vous allez signer votre contrat de formation avec l'auto-école et c'est parti pour votre formation ici à Éco-permis.
Comment se passent les cours de conduite et le code?
Alors, les cours de code, d'abord, chez nous, c'est en formule illimitée. Vous avez un an pour passer le code, bien sûr. On a des horaires très larges. On est ouvert tous les jours du lundi au samedi. Donc, le lundi matin, le mardi toute la journée, le mercredi toute la journée, le jeudi après-midi, le vendredi toute la journée, le samedi matin. Donc, vous avez des horaires très larges pour participer aux horaires de code, bien sûr. On a une salle de code collectif. On a aussi une salle informatique qui permet aussi de se perfectionner sur les ordinateurs. Au niveau des cours de conduite, on fonctionne tous les jours. Donc, du lundi au samedi, de 8h à 13h et de 14h jusqu'à 19h. Donc, on a des horaires vraiment très larges.
Combien faut-il de temps pour la présentation du permis et le code?
Alors, le temps, forcément, c'est une question un petit peu bâtarde, entre guillemets, parce que tout dépend de votre participation de l'élève. Il y a des élèves qui vont très vite pour passer le code, il y a des élèves qui sont plus longs, parce qu'il faut venir forcément en salle de code. J'ai des élèves qui arrivent à passer code et conduite en 4 mois de temps, j'ai des élèves qui passent le code au bout de 6 mois, voire même un an. Donc, ça me dépend un petit peu de votre motivation personnelle, on va dire.
Quelle est la différence de la conduite accompagnée et de la conduite seule?
Alors, la conduite accompagnée, comme je vous ai dit, c'est donc à partir de 16 ans. Donc le conduite seule que vous appelez conduite seule, c'est la formule traditionnelle, c'est le permis B qui se passe à partir de 18 ans. Alors la différence, c'est qu'à partir de 16 ans, vous avez une formation de 20 heures obligatoire en auto-école et ensuite vous êtes lâché pendant un an en conduite accompagnée avec les parents. C'est-à-dire que vous avez un an de conduite déjà sur la route à partir de 16 ans et demi, voire 17 ans, pour vous perfectionner. En conduite seule, que nous on appelle la formule traditionnelle, c'est à partir de 18 ans, bien sûr, toujours 20 heures de formation minimale général obligatoire avec un enseignant, et ensuite vous passez le permis de conduire.
Et le permis est-il le même pour ces deux apprentissages ?
Le permis est le même, hein, la grille d'évaluation reste le même, que ce soit une conduite accompagnée, vous allez passer aussi devant un inspecteur avec la même grille d'examen à vos 18 ans. La formule traditionnelle, vous passerez aussi votre permis de conduire avec un inspecteur, et la grille d'évaluation restera la même, bien sûr.
Quel est votre meilleur forfait niveau prix ?
Je ne vais pas dévoiler mes prix au micro, bien sûr. On a des forfaits très intéressants par rapport à la concurrence, hein, certes. Donc, je vous conseille de passer chez moi, en fait.
Quel est votre taux de réussite ?
J'en suis fier, hein, je peux en parler. C'est vrai qu'ici, à Ecopermis, on a une bonne réputation et un très bon taux de réussite. Parler de taux de réussite, c'est un petit peu aussi compliqué parce qu'on a des taux de réussite au mois, des taux de réussite à l'année. D'un mois à un autre, ça peut varier aussi parce que des mois, on peut être à 100% en code et 80% en conduite. Il y a des mois où ce sera moins. Donc, en général, sur un an, par rapport aux statistiques, chez nous, à Ecopermis, on a 85% de réussite en code et on est à 72, voire 75% de réussite au permis. Et au permis, je parle permis premier passage, bien sûr.
Pourquoi seriez-vous la meilleure auto-école ?
Alors, meilleure, je peux pas dire. Hein, ça faudrait peut-être interviewer mes élèves, je pense que c'est eux qui le diront. Forcément, pour moi, je suis la meilleure auto-école. Qu'on est l'une des meilleures, on va dire, auto-écoles sur la région arageoise, étant donné qu'on essaye d'adapter un petit peu notre pédagogie par rapport aux élèves. On a une équipe de formateurs très intéressante et très pédagogue, et on essaye aussi toujours innover au niveau technologie.
Pouvez-vous raconter une anecdote drôle durant votre enseignement ?
Je sais pas si c'est drôle, mais bon, je vais le dire quand même. C'est drôle, mais en restant un petit peu dangereuse, on va dire. Un jour, j'ai un élève qui était en fin de préparation permis de conduire, bien sûr, et vous connaissez tous le fameux rond-point tchèque qui reste un petit peu la hantise des élèves. Et j'arrive à ce rond-point-là et je lui dis à mon élève, écoute, à ce rond-point, on ira à gauche en direction Le Touquet. Et il y avait beaucoup de monde dans ce rond-point-là, donc cet élève s'arrête au CD le passage, bien sûr, observe bien à gauche ce qui se passe, il n'y a plus personne. Et d'un seul coup, il lui a pris la décision de tourner complètement à gauche, en sens contraire dans le rond-point. Donc j'ai tout de suite repris le volant et j'ai réagi au bon moment, en fait, voilà. Donc une petite anecdote.
Que pensez-vous de la nouvelle loi pour la conduite accompagnée ? L'accompagnateur doit faire une formation de 3 heures, 1 heure de code et 2 heures de conduite, pour 200 euros, en plus du prix de la conduite accompagnée.
Alors, on n'appelle pas ça, en fait, la conduite accompagnée. Ça, c'est une loi qui est passée un petit peu pour tout ce qui est location de véhicules à double commande. Double commande, donc les véhicules école, bien sûr. Avant, on avait le droit de louer un véhicule école dans les locations de double commande, pour fignoler un petit peu ou terminer la formation après les 20 heures obligatoires avec un enseignant. Donc c'était pour les élèves un petit peu compliqués, où les parents voulaient un petit peu accélérer le truc, ou alors des élèves qui passaient le permis plusieurs fois et qui rataient leur permis. Donc pour éviter de reprendre des leçons de conduite en auto-école, ils louaient un véhicule double commande. Il y a une loi qui est passée justement par rapport à ça, pour éviter un petit peu cette mauvaise façon de faire, pour moi personnellement, parce que l'enseignement reste toujours avec un enseignant. Donc il y a une loi qui est passée pour être accompagnateur maintenant et pouvoir louer un véhicule double commande, l'accompagnateur doit forcément suivre cette formation pour un coût minimum de 200 euros en fait. Voilà. Donc c'est plus par rapport à la location de véhicules double commande que de la conduite accompagnée. On ne va pas parler ça de conduite accompagnée parce que conduite accompagnée, c'est une formation à partir de 16 ans en auto-école. Là, c'est plus vers la location de véhicules à double commande.
Et donc maintenant, la question piège ou la question intéressante, quand et par qui a été créée les auto-écoles ?
Oula. Alors ça, c'est vraiment une question piège et très intéressante. Je pourrais pas vous répondre, franchement, parce que quand et par qui ? Bonne question.
Vous ne l'avez jamais appris durant votre formation ?
Non, du tout. C'est une question qui n'a jamais été posée, même le jour de l'examen. Même chez nous, on va dire, à l'examen du code, une question qui a jamais été, qui a été relevée, sauf par vous. Pourquoi pas ? Je vais m'y intéresser et je vous donnerai une réponse ultérieurement si vous le désirez.
Un micro-trottoir réalisé dans le cadre d'un atelier découverte radio par les élèves du lycée Baudimont. Quelle est votre pire bêtise que vous ayez faite en étant enfant ?
Moi, j'ai été très sage, alors c'est un grand souci.
Avoir brûlé la queue du chien de ma grand-mère.
Eh oui, ça arrive.
J'ai été quelqu'un de très docile et j'ai jamais fait de bêtise.
Bah, s'il y avait une bêtise à faire, c'était moi. Donc, demandez à mon frère.
Pas du tout, hein.
Mon frère, qui était plus âgé, à chaque fois qu'il y avait une connerie à faire, c'était moi. Et...
C'est énorme. Elle a fait des bêtises. Elle, depuis qu'elle est petite, elle fait des bêtises. Je pense que c'est fouillé dans son petit pot. Ouais, ouais. Là, elle s'amusait avec ça. Et voilà, elle s'en mettait plein les doigts. Elle aimait ça. Bon, c'était son truc. C'est une bêtise quand même. Hein. Puis après, sur les murs aussi, elle étalait un petit peu. C'était pas terrible. C'était pas terrible.
Je peux pas, il y a ma fille, je peux pas vous répondre.
J'ai lui bouché les oreilles si vous voulez.
Je faisais des cabanes dans les arbres avec mon frère. C'est des souvenirs, ça reste, et puis voilà.
L'association Trèfle, présidée par David Lobry, est un concept nouveau dans l'Arrajois. Elle a pour but de promouvoir la langue des signes française en proposant des rendez-vous d'imprégnation aux plus petits.
Cela permet aux enfants sourds, comme entendants, ainsi que leurs parents, d'échanger plus simplement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des membres de l'association, ainsi que des parents, et nous avons pu leur poser des questions.
Au cours de notre interview, les paroles de Carmen, formatrice à l'association Trèfle, interprétée par David Lobry.
Est-ce que vous observez un retard du langage chez l'enfant ?
En fait, c'est pas un retard de langage. Déjà, c'est la langue des signes, c'est une langue. C'est que les enfants entendants, ils sont encore petits, ils ne parlent pas encore, ils n'ont pas encore la vocalisation. Donc, ils s'expriment avec le corps, avec leur comportement, etc. Donc, ils peuvent utiliser là la langue des signes.
Quelle est la méthode d'apprentissage que vous utilisez ?
Donc en fait, on donne l'apprentissage par le biais des jeux, par des choses visuelles, donc par des jeux de couleurs, avec des images, des supports de ce genre-là, qu'on leur montre. Et en fait, on fait des interactions avec les enfants, aussi avec des livres, avec beaucoup de choses concrètes, en fait des supports visuels et concrets.
Quel est le matériel de bébé spécifique aux sourds que vous utilisez ?
Alors, le matériel spécifique aux sourds, il n'y en a pas. En fait, c'est du matériel standard, des jeux que peuvent utiliser tous les enfants, tous les bébés, et qu'au fait, on peut apporter des jouets et qu'on l'utilise. Mais en fait, que nous, on les utilise pour utiliser notre interaction avec l'enfant. Pour lui demander ce que c'est, les supports, ce n'est pas forcément des choses spécifiques aux sourds. Hein, c'est des choses du quotidien, ça peut être le biberon que les parents peuvent apporter, les biberons. Donc, on leur explique comment on fait le biberon, le signe du biberon. Donc, ils essaient de reproduire. C'est pas si l'enfant a soif, il pourra demander à sa maman, en utilisant la langue des signes, le fait qu'il veuille un biberon.
Est-ce que les enfants ont conscience du handicap de leurs parents ?
Leurs parents, il y a des parents entendants parmi les personnes du groupe, parmi les enfants. Après, il y a des parents sourds qui ont un enfant sourd ou des parents entendants qui ont des enfants sourds. Donc la situation, en fait, c'est un peu différent. Moi-même, par exemple, mon mari est sourd, moi je suis sourde aussi, on a des enfants entendants.
Quelles sont les principales difficultés éprouvées par un enfant de parents malentendants ?
C'est vrai que pour mes enfants, par exemple, ils n'ont pas de problème. Le problème, enfin, je sais pas, on utilise la langue des signes. C'est vrai que le problème qui peut arriver, c'est à l'école, par exemple. À l'école, c'est vrai que mes enfants, ils vont apprendre à lire. Moi, je ne peux pas refaire avec eux avec la voix. Hein. Je ne peux pas contrôler s'ils lisent bien, s'ils parlent bien, parce que je n'utilise pas moi-même la voix et je n'entends pas. Donc la solution que j'utilise, c'est que, par exemple, j'utilise des personnes de ma famille qui sont entendants, ou alors je vais voir le professeur pour discuter avec lui, voir avec lui, est-ce que mon enfant parle bien, est-ce qu'il lit bien, etc. Et souvent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, donc ça se passe bien. C'est vrai que pour la lecture, à l'oral, etc., je ne peux pas contrôler. Mais je ne m'en occupe pas. Et c'est souvent le professeur que je rencontre et avec qui je discute pour voir si ça se passe bien.
À partir de quel âge peut-on diagnostiquer la surdité ?
C'est pas facile pour un bébé. C'est vrai que maintenant, avec la loi, c'est vrai qu'il y a des dépistages ultra précoces qui existent. On peut faire ces dépistages à 3 jours après la naissance. Après, l'enfant, il est né, il est entendant, il va grandir, peut-être qu'il va devenir sourd et on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Parfois, on va s'en rendre compte parce qu'il y a un gros bruit, quelque chose qui tombe à côté de lui et l'enfant, il va même pas réagir, donc là on va dépister ou détecter qu'il va devenir sourd ou pas. Après, à quel âge exactement, c'est pas facile à dire, parce qu'en fait, on le voit pas en fait qu'un enfant est sourd, on le voit pas, il est pas handicapé physiquement, il a rien physiquement au niveau du visage, du corps, voilà. Un sourd, c'est quelqu'un comme vous et moi, physiquement ça se voit pas, ça peut être n'importe qui, c'est un handicap caché, invisible, voilà.
Et est-ce que les nouvelles technologies sont d'une grande aide aux personnes sourdes ?
Bah non, enfin les technologies en fait c'est pas forcément un progrès. Ce qui est important en fait ici c'est que on soit assis, on utilise le regard, la langue des signes, qu'il y ait des échanges pour cet atelier. Après on n'utilise pas forcément des supports technologiques ici parce que bon ils sont pas encore prêts à utiliser ces supports là comme ils sont encore jeunes. Pour l'instant ils sont dans la découverte, dans l'appropriation, dans le tactile. On va pas encore utiliser tout de suite leur utiliser les moyens de nouvelles technologies. Pas encore à cet âge là.
1, 2, 3, 4.
Nous avons pu également interroger Corentine, âgée de 26 ans, étudiante en stage à l'association Trèfle.
Je m'appelle Corentine, j'ai 26 ans, j'habite à Arras et je fais mes études à Lille.
Pourquoi avez-vous choisi cette voie ?
Donc en fait, moi j'adore les langues, je parle anglais et allemand. Et puis un jour j'ai eu l'occasion d'apprendre la langue des signes au sein de l'association Trèfle. Donc j'ai commencé au départ comme un loisir et puis après ça m'a vraiment plu. Lors de la formation, on a eu une présentation du métier d'interprète, donc langue des signes française, français. Et puis là je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis voilà, je me suis renseignée, il y a un master à Lille, à l'université Lille 3. Donc voilà, je me suis inscrite et puis c'est ma dernière année, si tout se passe bien.
Et donc vous envisagez après un métier avec cette particularité ?
En fait, le master que je suis en ce moment, il me prépare directement au métier d'interprète. Donc par exemple, là, la situation concrètement, c'est que vous êtes en train de m'interviewer. À côté de moi, il y a un monsieur qui est sourd. Et donc à côté de vous, il y a un interprète en langue des signes française qui traduit vos propos en langue des signes pour le monsieur sourd et qui traduira ensuite les propos de ce monsieur sourd en français pour vous.
Et on termine ce reportage avec quelques questions posées aux parents présents ce jour-là.
Est-ce que vous parlez la langue des signes assez couramment ?
Non, pas couramment. J'ai appris il y a 10 ans et j'ai fait que 2 ans de langue des signes.
Pourquoi avoir décidé d'inscrire votre enfant à cet atelier ?
Parce que sa maman le pratique et parce que ça aide aussi quand ils sont petits à se faire comprendre, à les comprendre avec des signes très simples. Comme dormir, manger, boire. Voilà, ça permet aussi à l'enfant de s'exprimer plus facilement qu'avec des mots.
Et pourquoi l'avoir initié à un âge aussi jeune ? Pourquoi ne pas l'avoir initié plus tard ?
Parce que c'est bien de commencer le plus tôt possible. Au début, ça devient, c'est un jeu, et puis après, peut-être qu'il découvrira que c'est vraiment une langue et qu'il pourra l'utiliser. Donc plus on commence tôt au niveau des langues, mieux c'est.
Donc les gestes que vous lui montrez, il les retient facilement ou c'est assez compliqué ?
C'est dans la répétition qu'il le retient. Si on le refait à la maison, si on s'arrête juste à ce qui se passe ici le mardi avec les 4 enfants et Carmen l'intervenante, c'est vrai que voilà, il le gardera pas en tête. Par contre, il faut travailler ça à la maison, quoi, pas travailler, mais jouer avec lui, avec les signes à la maison.
Et donc en cours, forcément, il y a plusieurs enfants, donc ça se déconcentre assez facilement, je pense, à cet âge-là. Comment vous réagissez ? Vous le laissez ou bien vous intervenez ?
C'est pas un cours, c'est un atelier de découverte. Ils sont aussi là pour jouer, pour se sociabiliser, connaître d'autres enfants, et tout ça avec de la langue des signes. Mais c'est pas un cours, on va pas les obliger à apprendre.
Qu'est-ce que vous diriez à des personnes pour donner envie de venir ? À cette initiation.
Que c'est un très bon moyen d'entrer en contact avec son enfant avant qu'il se mette à parler. Voilà, et que ça crée des liens différents.
Est-ce que vous parlez la langue des signes ?
Un petit peu.
C'est couramment ou c'est juste dans le cadre de bébé signe ?
Non, ma maman est sourde et moi, en termes de niveau, il y a 12 niveaux qui existent et moi, je suis simplement au 5e niveau.
Pourquoi avoir décidé d'inscrire votre enfant à cet atelier ?
Pour qu'il puisse communiquer avec sa grand-mère, facilement.
Les enfants retiennent-ils les gestes que vous lui montrez ?
Oui, assez facilement, comme le langage. Il suffit d'associer le mot au geste et l'acquisition se fait pareil.
Donc il est refait chez vous en fait?
Oui, plus facilement. Et il y a un système de communication qui est beaucoup plus facile à se mettre en place après, pour par exemple quand il veut quelque chose avec quelqu'un, ou... c'est beaucoup plus facile.
Pourquoi les initier à un âge aussi jeune?
Bah, c'est comme la parole, en fait, tout simplement. C'est une langue maternelle, donc c'est le plus tôt et le mieux. En fait, c'est pour pouvoir acquérir autant le langage parlé que le langage avec les signes. C'est une langue, hein. Donc il y a des enfants qui peuvent en bénéficier parce qu'un des deux parents est sourd. Et bien là, c'est pareil.
Lorsque les enfants se déconcentrent, comment réagissez-vous? Est-ce que vous laissez plutôt faire ou est-ce que vous intervenez dans le cadre du cours?
À cet âge-là, on ne peut pas tellement intervenir, à part l'attraper et lui demander de regarder dans les yeux. On ne peut pas obliger un enfant à parler, alors on ne peut pas obliger un enfant à signer. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est la même chose qu'une langue. En fait, la langue des signes, c'est comme l'anglais, c'est comme l'allemand. Donc plus jeune ils l'apprennent et mieux c'est pour eux.
Un reportage réalisé dans le cadre d'un atelier radio avec les élèves de l'option Infocom du lycée Baudimont.
Après avoir assisté à cet atelier, nous vous décrivons notre ressenti. Jeanne, nous commençons avec toi.
Ben déjà, j'ai remarqué que les parents étaient vraiment très impliqués dans l'atelier et il y avait une vraie bonne ambiance entre tous les membres, que ce soit les parents, les moniteurs, monitrices et les enfants. C'était vraiment très agréable à regarder et à écouter.
Justine ?
J'ai remarqué que les bébés avaient l'air plus éveillés que les autres enfants de cet âge-là.
Margot ?
Moi, je pense que ça apporte aux parents comme aux enfants. Parce que en plus du côté atelier, entre guillemets, qui les initie aux signes, je pense que ça leur permet de se relaxer, d'être plus complices avec leurs parents avec qui ils partagent le moment.
Marie ?
Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Le concept est très enrichissant, que ce soit pour les entendants et les malentendants. Et en bref, hein, j'ai pris plaisir à y aller.
Donc si cet atelier vous intéresse, nous vous conseillons de vous rendre sur le site internet www.trefle.org. ou de contacter l'association au 03 21 48 86 20.
Ce reportage a été réalisé par Margot Picard, Justine Diévard, Marie Delattre et Jeanne Millet, élèves du lycée Baudimont.